sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Johan, qui vient d'emménager à Reims, voulait entendre parler de cette ville en général et des sacres royaux en particulier. De son côté, Julien, qui a 25 ans et qui habite à Rennes, aurait aimé une émission sur le dernier roi de France par la grâce de Dieu, Charles X. Franck Ferrand leur fait plaisir à tous les deux, puisqu'il nous propose de parler aujourd'hui du sacre de Charles X à Reims. Voilà. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors dans un instant, en effet, je vais vous raconter le dernier sacre qui ait eu lieu en France. C'était en 1825. Pour la circonstance, nous avons choisi de monter cette émission en partenariat avec le magazine Pèlerin, qui, à l'occasion des Journées du patrimoine, consacre 4 pages à la destruction et à l'incendie de ce haut lieu de notre patrimoine, cette cathédrale de Reims qui tombait sous les bombes allemandes. C'était le 19 septembre 1914. Il y aura donc 100 ans tout rond après-demain.
Oui, et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question posée par Omblin sur le site internet d'Europe 1. Omblin voudrait savoir si la robe de mariée a toujours été blanche.
Voilà un joli prénom, Omblin.
C'est vrai.
Alors pour tout vous dire, j'ai le sentiment d'avoir déjà consacré un peu de temps à cette question de la robe de mariée, mais c'était il y a longtemps. C'était presque au temps où les mariés allaient à l'hôtel vêtus de rouge, donc on y reviendra tout à l'heure. Pour le moment, nous prenons la route de Reims afin d'aller couronner, que dis-je, afin d'aller sacrer le bon roi Charles X.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Il y a des choses qu'il faut rappeler parfois, notamment, vous savez que beaucoup de nos contemporains ont oublié que la Révolution n'a pas mis un terme à la monarchie en France. Après la République de 1792, après le Consulat de 1799, après l'Empire de 1804, et d'ailleurs avant le Second Empire, 3 rois ont encore régné, dont 2 de droit divin, les petits frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Vous voyez à quoi ressemblait Louis XVIII, hein, on en a pas mal parlé déjà dans cette émission, on le surnommait le roi podagre parce qu'il était obèse et impotent, en tout cas dans les dernières années de sa vie. Le souverain s'éteint après une décennie de règne, le 24 septembre 1824, et c'est à ce moment-là que lui succède donc son frère, le dernier des 3 frères, l'ancien, enfin il y en avait même 4 si l'on compte le duc de Bourgogne, mais qui était né il y a bien longtemps sous le règne de Louis XV et mort à cette époque. L'ancien comte d'Artois, donc, qui avait été le beau-frère préféré de Marie-Antoinette. Il avait été c'était le jeune homme brillant de la fin de l'Ancien Régime, le comte d'Artois. Eh bien, ce nouveau roi avait beaucoup vieilli. Bien sûr, il a 67 ans à l'époque, mais il est toujours mince et lancé, avec de beaux cheveux blancs, excellent cavalier. C'est lui qui va régner sous le nom de Charles X. Alors à l'époque, disons-le clairement, parce qu'on a depuis beaucoup terni sa mémoire, à l'époque c'est encore un prince très populaire. On salue partout sa prestance, on loue sa générosité. C'est un roi veuf, puisque son épouse Marie-Thérèse de Savoie était morte 20 ans plus tôt. Il n'a plus qu'un fils vivant, le duc d'Angoulême, puisque le duc de Berry, vous savez, a été assassiné à l'opéra par le fanatique Louvel. Ça c'était en 1820. Monsieur, comme on l'appelait hier encore, aura passé un quart de siècle en exil. Il a quitté le royaume dès le lendemain de la prise de la Bastille, donc dès le 15 juillet 1789, et puis par la suite, il a été un peu le leader de l'immigration, si je puis dire. C'est lui qui a largement dirigé pendant toute la période révolutionnaire la frange la plus active et la plus belliqueuse des partisans de la monarchie. Et même après 1814 et la restauration de son frère, il est resté très intransigeant sur certains principes. Voilà ce que nous dit Marc Nadeau. Selon le comte d'Artois, la monarchie doit s'organiser suivant les principes de l'Ancien Régime. Alors que la Restauration évolue peu à peu vers une ébauche de régime parlementaire, il n'affiche que mépris pour les débats à la Chambre et le jeu des élections. S'inscrivant comme un soutien intangible du groupe Ultra, le comte d'Artois est ainsi l'espoir et l'inspirateur de la contre-révolution. Et Frédéric Lacaille, que je salue, conservateur en chef au château de Versailles, nous dit « Après 25 années passées en émigration et les 10 ans de règne de son frère, Charles X était désormais un tout autre homme. » C'était quelqu'un qui avait, en quelque sorte, vous savez, on disait que les gens de la Restauration, notamment tous les anciens émigrés, et à leur tête le comte d'Artois, n'avaient rien oublié, rien appris. quand même, il avait un peu appris Charles X. Il avait ce naturel spontané, cette espèce de bonté naturelle qui l'aidait. Chateaubriand nous dit, alors il est un peu suspect de flagornerie, Chateaubriand, comme souvent, mais il nous dit que Charles X était pieux comme Saint Louis, affable, compatissant et justicier comme Louis XII, courtois comme François Ier, franc comme Henri IV. C'est vrai que, encore une fois, cette très belle apparence, cette très belle prestance l'a aidé, l'a rendu d'autant plus populaire. Or, et c'est ce qui nous intéresse, le 22 décembre 1824, dans son discours du trône, Charles X annonce qu'il ne suivra pas l'exemple de son prédécesseur qui avait fini par renoncer à l'onction divine. Lui veut un sacre, un vrai sacre en bonne et due forme. Voilà ce qu'il dit à la Chambre. « Je veux que la cérémonie de mon sacre termine la première session de mon règne. Vous assisterez, messieurs, à cette auguste cérémonie. Là, prosternés au pied du même autel où Clovis reçut l'onction sainte et en présence de celui qui juge les peuples et les rois, je renouvellerai le serment de maintenir et de faire observer les lois de l'État et les institutions. » Il y a une volonté politique très ferme de ce point de vue chez Charles X. Alors, même si déjà, dans certains organes de ce qu'on ose appeler l'opposition, on commence, c'est le tout début, à se moquer déjà de cette idée de sacre. Il faut vous dire qu'il n'y a donc pas eu de sacre en France. Si on accepte le couronnement de Napoléon Ier, qui est une toute autre chose, mais il n'y a pas eu de sacre royal et divin en France depuis Louis XVI, hein, depuis 1775. 1775-1825, ça fait 50 ans, bien entendu. On dit parfois que Louis XVIII n'avait pas voulu être sacré. Ça n'est pas vrai. Louis XVIII, en mai 1814, avait bien l'idée de faire consacrer son retour et son accès au trône par l'onction du sacre, nous dit Frédéric Lacaille. La situation politique qui s'ensuivit et surtout son état de santé qui se dégradait de plus en plus l'en empêchèrent définitivement. Et oui, vous savez que bientôt Napoléon va remonter sur le trône, hein, ce seront les 100 jours. Napoléon va quitter l'île d'Elbe pour venir s'installer à Paris, donc Louis XVIII est obligé de repartir pour la deuxième fois en émigration, si j'ose dire, ça ne va pas durer très longtemps cette fois. Puis quand il rentre après Waterloo, les finances et puis son état de santé effectivement ne permettent plus un véritable sacre. Alors voilà, vous imaginez l'espèce de fébrilité qui d'un seul coup s'empare du royaume entier. Il va falloir sacrer le roi, ça va être la grande fête. Un peu pensez au couronnement de la reine Elisabeth II d'Angleterre en 1953. Hein. Vous voyez l'ampleur de l'événement. Mais c'était la même chose à l'époque, c'était la grande affaire que le sacre de Charles X. On était dans un état de mobilisation générale, si l'on peut dire, pendant ce premier semestre 1825. Alors, quelle date choisir? On avait dit d'abord que ce serait le 3 mai. La date a été repoussée au 12 juin parce que c'était l'anniversaire du sacre de Louis XVI. Ça aurait fait 50 ans tout rond. Finalement, on déplace tout ça au 29 mai, qui est le dimanche de la Trinité. Et alors là, maintenant, il va falloir organiser faire tous les préparatifs de la fête. Il va falloir rénover la cathédrale de Reims, lui donner ses habits de fête. Il va falloir restaurer le palais du Tau. Il va falloir faire peau neuve, retrouver tous les objets du sacre. Bref, c'est la grande affaire de cette époque. Et je peux vous dire que les Français de l'époque sont très exaltés.
Extrait du Voyage à Reims de Rossini. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au sacre de Charles X.
Que le nouveau service, je dis nouveau, c'est un très antique service, mais qui a repris, qui est redevenu d'actualité après la Révolution et l'Empire, le service des menus plaisirs, avec son directeur des fêtes et cérémonies, la Ferté. Il faut que tout ce monde-là se mette au travail pour préparer le sacre, sous la direction du duc de La Rochefoucauld, en charge des beaux-arts. On restaure donc, je vous l'ai dit, la cathédrale de Reims et on remeuble le palais archiépiscopal où va loger le roi. On fait du nouveau avec de l'ancien, nous dit Landry Kraya. On répare en vue de l'avenir tout ce qui, venant du passé, peut encore servir. Le devis de la cathédrale et du palais se monte à 315 000 francs, alors que le roi a demandé que, par ailleurs, on fasse preuve d'une certaine économie. C'est extraordinaire tout ça, parce qu'évidemment, il faut tout réinventer. Il faut une voiture du sacre, un carrosse, si vous voulez. Vous imaginez que ça fait partie, bien entendu, de l'apparat et de ce qui peut peu impressionner le public à l'époque. Alors, on va demander à la maison d'Aldringen de faire un grand carrosse extraordinaire. Voilà ce que nous dit Edmé François-Marie-Antoine Miel dans son Histoire du Sacre de Charles X à propos des dans ses rapports avec les beaux-arts et les libertés publiques de la France, voilà le titre. Noble, élégante et riche, cette voiture est sous le rapport de l'art une très belle chose. Elle consiste en une berline dont les panneaux de bronze doré sont ornés de peinture. Sur chaque côté, les glaces d'une parfaite transparence. N'oublions pas qu'on est au début du 19e siècle. Ces glaces d'une parfaite transparence laissent la facilité de voir dans l'intérieur les augustes personnages qu'elle doit contenir. On va également retisser un grand manteau royal. Il faut dire qu'il avait déjà été confectionné dès 1814 pour Louis XVIII. Mais comme la fourrure d'hermine entre-temps a été un peu endommagée, on va la renouveler. Il pèse 80 livres, 40 kilos, ce manteau royal. Il mesure 20 pieds de long, 12 de large. Il est orné de 1200 fleurs de lys, donc entièrement brodées d'hermine mouchetée, accompagnées d'un chaperon. Tout ça est absolument extraordinaire. Et l'on refait également la tunique, la dalmatique, d'un violet tirant sur le rouge. Je précise ça d'ailleurs parce que les manteaux de sacre habituellement étaient plutôt bleu nuit, bleu de France. Et là, celui de Charles X sera violine en vérité. Et puis donc, on restaure la cathédrale. On veut pour l'occasion une décoration qui soit à la fois, qui s'inscrive dans la tradition et qui soit à la mode. Ça tombe bien, on est en plein dans le néo-gothique et dans le style troubadour, donc on va fabriquer toutes sortes de décors qui sont mis en place dès le mois de février avec ce violet qui est très présent et qui est là pour souligner la dimension divine, la dimension religieuse de la personne royale. Le cramoisi est utilisé par plus petites touches, il y a aussi du bleu bien entendu. La nef, la croisée, le chœur sont habillés de tout un décor qui est fait à la fois en bois, en carton peint. Il y a des grandes toiles peintes en trompe-l'œil. Au-dessus des grandes arcades, vous aurez désormais les portraits des rois de France, depuis Clovis jusqu'à Louis XVIII, ce qui permet d'attendre parce que on fait entrer certains spectateurs longtemps avant la cérémonie, alors au moins il faut qu'ils aient des choses à regarder pour se distraire, si je puis dire. Tout ça a été fait, bien entendu, le placement du moindre symbole, du moindre décor a fait l'objet de longues discussions. Enfin, on imagine ce que c'est que la préparation, une espèce de bouillonnement d'une fête comme celle-là. Et puis, il y a le jubé qui va être l'élément principal et qui doit permettre à tous de voir le roi. Puisque, si vous voulez, c'est comme une sorte de gigantesque estrade hein, qui est très très en surplomb de l'ensemble de la cathédrale. Le trône y est installé sous un baldaquin monumental aux tentures de velours violet semées de fleurs de lys. Il s'élève à 5 mètres et se situe à 16 mètres du portail, flanqué de deux escaliers. Ce jubé était surmonté d'un arc de triomphe à la décoration très riche, nous dit le père Landry Kraya. La corniche de forme corinthienne était soutenue par 8 pilastres et 12 colonnes. Tout ça dans un style très classique, bien entendu. Les colonnes portent les insignes de royauté. La voûte est décorée d'un dé fleur-de-lysé pour abriter le souverain et l'archevêque de Reims au temps fort de la cérémonie. Dites-vous, bien entendu, que l'on est là dans ce qu'il y a de plus symbolique. Il ne faut pas s'étonner de cette suraccumulation d'allégories, de symboles, d'emblèmes, puisque c'est la nature même, c'est le propos même du sacre que de les accumuler et de les fixer à jamais dans la mémoire collective. Et puis, pour après et avant la cérémonie, on a remis à neuf le palais archiépiscopal. Les travaux avaient commencé dès le mois de décembre de l'année précédente, sauf qu'on disait que le palais serait jamais fini à temps. Et le roi a répondu « Eh bien, si les appartements ne sont pas prêts, je camperai, que voulez-vous. Si les cuisines ne sont pas prêtes, je jeûnerai. » Mais le jour, lui, est irrévocable. Et oui, parce que c'est toujours comme ça dans ce genre de circonstances. Il y a toujours des gens qui sont du côté de l'organisation et qui essaient de retarder le plus possible les choses. Le roi dit « ça aura lieu à la date voulue ». Alors on a, il faut loger toute la cour aussi dans Reims, vous imaginez, quand je dis toute la cour et tous les curieux et tous les invités qui sont très nombreux, qui arrivent de l'Europe et même on peut dire du monde entier, on va en parler évidemment dans un instant. Une salle de 150 couverts a été aménagée pour le grand dîner royal, précédée d'un portique composé de 9 arcades qui contiennent les statues de saints. La partie inférieure est en faux marbre blanc, ornée d'arabesques, de croix, de feuilles de vigne. La façade principale du palais présente une grande loggia de style classique ornée de pilastres, couverts d'arabesques, etc. Vous imaginez un peu l'ampleur que tout ça peut prendre. Il y a un aspect qu'on n'a pas négligé, bien entendu, car on est après la Révolution. Bon, cela dit, on ne le négligeait pas forcément avant, mais ça a pris bien sûr une importance plus grande au XIXe siècle, c'est la question de la sécurité. Encore une fois, il y a énormément de gens qui arrivent, il y a tout le corps diplomatique. On craint non seulement pour la sécurité du roi, mais pour celle d'un certain nombre des invités. On est en plein bouillonnement de complots, d'attentats dans un certain nombre de pays du centre de l'Europe. Donc, on va faire en sorte que la circulation soit parfaite. Parfaitement réglé, que la sécurité soit assurée, un peu comme on le ferait aujourd'hui. Et du reste, il y a énormément de policiers qui ont été déplacés, pas moins de 5 commissaires de police parisiens qui ont fait le voyage de Reims. Ils sont là du 16 mai jusqu'au 5 juin et ils travaillent avec les 3 commissaires de police rémois. Et il faut un permis de séjour pour être dans la ville royale au moment des festivités, bien entendu. Et inutile de vous dire que, comme toujours dans ce genre de circonstances, on a éloigné tous les indésirables. Il n'y a plus de prisonniers à la prison de Reims. On a nettoyé les rues, si je puis dire. Vous n'avez plus de mendiants, plus de prostituées, etc. Et maintenant, eh bien, on va partir. On a entendu tout à l'heure quelques accents du voyage à Reims de Rossini. C'est, je vous le dis, la grande affaire. C'est un très très joli opéra bouffe. D'ailleurs, c'était très charmant. C'est la grande affaire. On s'en va le 24 mai. Charles X et le dauphin sont à Compiègne le 27 mai. Évidemment, on attend les principaux hauts responsables de la cour pour accompagner le roi jusqu'à Reims. La garde nationale de Reims, les autorités civiles et militaires, tout le monde évidemment est là pour accueillir Sa Majesté. Vous imaginez les chasses en route, les fêtes, les réceptions, etc. Dans chaque ville traversée, le roi reçoit les clés, etc., etc. À Fismes, il y a eu un accident à cause d'un orage terrible qui a vraiment été évité de justesse. Les chevaux ont été effrayés justement par cette garde nationale. Le général Vincent, qui est l'écuyer de service, a ordonné au cocher de ne pas faire ralentir les chevaux. Au contraire, c'est ce qui a sauvé le roi. À peu de choses près, imaginez-vous, ce pauvre Charles X aurait pu mourir avant même d'être sacré roi de France par la grâce de Dieu.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Posez vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au sacre de Charles X. Retour à Reims avec vous, Franck Ferrand, pour le sacre de Charles X.
Vous voyez à quoi ressemble Reims à l'époque. C'est beaucoup plus modeste qu'aujourd'hui. C'est une ville de 31 000 habitants, qui est très prospère, grâce notamment au commerce du champagne, ai-je besoin de le préciser, mais en même temps, c'est une ville qui a assez mauvaise réputation dans la bonne société, parce qu'on dit qu'elle est très ouvrière et qu'elle est très agitée. Le maire, lui, évidemment, vous savez qu'à l'époque, les maires sont nommés par le pouvoir central, hein, donc le maire est un bon partisan de la restauration des Bourbons. Il fait de ce sacre une affaire personnelle, et d'ailleurs, il a fait placarder partout des affiches pour rappeler à la population la tradition d'hospitalité, parce que c'était une habitude depuis toujours. Lorsqu'il y avait un sacre à Reims, on demandait aux habitants d'accueillir chez eux le plus possible d'inviter pour loger les gens, tout simplement. Alors, les commerçants en profitent. Il paraît que les prix montent dans des proportions complètement incroyables. Il fallait payer 15 francs un poulet, ce qui, pour l'époque, est une somme invraisemblable. 2 à 300 francs pour une chambre garnie, c'est l'équivalent du loyer d'un mois d'habitude. Vous voyez un peu le genre. Il y a du monde qui arrive de partout, notamment des religieuses qui sont arrivées de toute la France. On a organisé aussi un bazar qui devait être une sorte de gentil marché populaire et traditionnel, mais qui s'est transformé en une sorte de gigantesque foire, avec là encore un afflux de population bien plus grand que ce qu'on pensait. Reims vivait dans une atmosphère de fête, nous dit le père Landry Kraya. Les bals se succédaient, des animations foraines fonctionnaient. Et nous voilà au dimanche 29 mai 1825, le jour même du sacre. Les invités se pressent très tôt dans la cathédrale. Alors il y a toute une tenue à respecter, hein. Tout ça était sur les invitations. Dès 7h, le corps diplomatique entre. Les envoyés les plus prestigieux sont placés au premier rang. Et puis on va procéder, comme d'habitude, au lever du roi. son arrivée, et puis à cette cérémonie qui va durer quand même 4 heures. Un peu avant 8 heures, les deux cardinaux assistants se rendent à la chambre du roi. Charles X est vêtu comme un catéchumène d'une longue camisole cramoisie recouverte d'une robe d'argent. Sur la tête, il a donc une toque de velours noir garnie d'un cordon de diamants surmonté de plumes. Le grand chambellan demande « Que demandez-vous » et le cardinal de Clermont-Tonnerre, premier assistant, répond « Nous demandons Charles X que Dieu nous a donné pour roi. » Et voilà la procession qui peut désormais partir à l'église. Alors, je ne vais pas vous raconter toute la cérémonie en tant que telle, puisque ça, nous allons voir dans un instant avec Philippe Delorme qu'elle est quasiment la même pour tous les rois à travers tous les siècles. Elle a évolué, il y a eu des petits changements, mais globalement, c'est une espèce de cérémonie immuable. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est la liesse populaire à la fin de cette longue, de cette interminable cérémonie, quand on ouvre les portes de la cathédrale, qu'on crie « Vive le roi !» On lâche les oiseaux qui symbolisent le lien vers le ciel, en quelque sorte. 650 colombes qui ont été achetées à Paris. 240, entre parenthèses, étaient mortes pendant le trajet. On en a racheté à Reims et finalement, on pourra comme ça en lâcher 540 dans la basilique. La fin de la cérémonie donne le signal, si vous voulez, des festivités. Alors, il y a le grand festin royal au Palais du Tau, mais il y a aussi la fête, non seulement à Reims, mais dans toutes les villes du royaume. Je vous donne un exemple, parce qu'on pourrait en donner bien d'autres. Prenons l'exemple de la ville de Saintes, qui est dans le département de la Charente-Maritime, n'est-ce pas, à Saintes. Le 27 mai, on a déjà fait une affiche qui a été placardée partout pour prévenir du sacre qui sera, n'est-ce pas, dit-on, le gage assuré du bonheur des sujets. Le roi va promettre de se dévouer à la félicité des Français, ses enfants, et on demande à ces fameux enfants de se livrer à leur transport d'amour et de reconnaissance. À la tombée de la nuit, le 28 mai, 21 coups de canon ont été tirés à Reims, à Saintes. C'est ça, dont, imaginez, multiplié dans toutes les villes de France. Le 29 mai, au petit matin, de nouveau 21 coups de canon. À 7 heures, les tambours qui battent le rappel. À 8 heures, dans les rues, la garde nationale de Saintes qui se rassemble. À 9 heures, une grand-messe solennelle, une parade militaire, distribution de pain à tous les pauvres à 13 heures. Et puis à partir de 14 heures, le bal avec des rafraîchissements offerts à partir de 16 heures. Et tout ça durera jusqu'à la tombée de la nuit et même au-delà, grâce à des illuminations, parmi les plus belles illuminations qu'on ait connues à Saintes. Et ça, il faut l'imaginer dans toute la France. C'est donc un jour de fête et de liesse absolument incroyable. Alors, vous savez qu'il était de tradition que le roi touche les écrouelles après son sacre. Le roi s'approchait des personnes qui avaient des graves maladies de peau et les touchait. Il disait « Le roi de France te touche, Dieu te guérit ». C'était le pouvoir thaumaturgique du roi de France. Dans un premier temps, Charles X avait renoncé à toucher les écrouelles. Et puis, devant l'espèce d'émeute, il faut bien dire, qu'a créé sa décision, il s'est ravisé et finalement il va se rendre à l'hôpital Saint-Marcou, qui est tout proche de l'archevêché. Et il faut imaginer une foule bien plus dense que ce qu'on avait prévu, et le roi va prendre le temps de toucher chaque malade et de parler presque à chacun en prononçant la formule rituelle « le roi de France te touche, Dieu te guérit ». Les célébrations, les fêtes, etc. vont durer encore 2 jours et puis on repart de Reims, n'est-ce pas ? Après avoir tout de même dépensé 8 millions de francs environ, ce qui était très important, le roi avait dit « quoi qu'il arrive, pas plus de 6 millions ». C'est peut-être la raison pour laquelle on trouve encore dans les comptes de la Maison du Roi, à la date de 1827, une note de 200 francs impayée et c'est un fournisseur d'encens qui était là pour le sacre à Reims et qui réclame qu'on lui paye ce qu'on lui doit. Bonjour Philippe Delorme, merci beaucoup d'être avec nous. Vous connaissez ces histoires de sacre mieux que quiconque. On va y revenir bien sûr dans un instant. Et Philippe Royer, vous êtes grand reporter à Pèlerin. Pèlerin consacre 3-4 pages à la cathédrale de Reims et à sa destruction il y a 100 ans. Vous avez visité aussi l'exposition consacrée au sacre des rois de France.
Elle est passionnante. C'est une exposition qui, outre la collection permanente du Palais du Tau, qui est à côté de la cathédrale, bénéficie de prêts assez exceptionnels du domaine de Versailles.
Eh bien, on y vient dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez, Franck Ferrand, cet après-midi de Reims, cathédrale des rois, avec vos invités Philippe Delorme, journaliste et historien, responsable éditorial du magazine Point de vue Histoire, et Philippe Royer, grand reporter au magazine Pèlerin.
Alors il faut, Philippe Delorme, que j'ai quand même l'honnêteté de reconnaître que tout le monde ne partageait pas l'allégresse générale en ce 29 mai 1825. Il y avait des critiques, bien entendu, et il y a notamment le très joli Laude, qui s'appelle le Sacre de Charles le Simple, du chansonnier Béranger, qui disait « Français que Reims a réuni, criez Montjoie et Saint-Denis, on a refait la Sainte-Ampoule, et comme au temps de nos aïeux, des passereaux lâchés en foule, dans l'église vole joyeux. D'un joug brisé, ses vains présages font sourire sa majesté. Le peuple crie « Oiseaux, plus que nous, soyez sages, gardez bien votre liberté. Oiseaux, plus que nous, soyez sages, gardez bien votre liberté. Chamarré de vieux oripeaux, ce roi grand avaleur d'impôts marche entouré de ses fidèles qui, tous en des temps moins heureux, ont suivi des drapeaux rebelles d'un usurpateur généreux. 1 milliard les met en haleine, c'est peu pour la fidélité. » Allusion au fameux milliard des émigrés qu'on avait donné à tous ceux qui avaient dû s'exiler au moment de la Révolution française. Globalement, le sacre de 1825 a été bien accueilli tout de même.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu archaïque, un petit peu anachronique. Bon, on disait, vous parliez tout à l'heure de la Restauration, il faut voir quand même que c'est le premier régime qui en France va acclimater, je dirais, le parlementarisme. Hein. Avant, on a eu la dictature de Napoléon, on a eu la Commune, on a eu la Convention, par exemple. Oui. Voilà, on a eu donc des régimes très 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 forts, très dictatoriaux, je dirais. Et là, pour la première fois, on essaye d'acclimater un régime parlementaire, avec bien sûr les difficultés, les limites que cela peut avoir. Alors, c'est vrai que ce sacre de Reims s'inscrit dans une très très longue histoire, puisque c'est plus de 1000 ans d'histoire. Hein. Le premier sacre d'un roi de
oui,
France
c'est quand,
à Reims.
C'est, à partir de quand est-ce qu'on sacre un roi?
Alors, à Reims, 816. Donc,
très tôt.
Plus de 1000 ans auparavant.
Juste après Charlemagne.
Louis le Pieux, donc le petit-fils de... Le fils de
Charlemagne.
Voilà, qui est donc sacré à Reims. C'est le premier sacre, donc, et le premier d'une longue série, puisque tous les rois de France, mis à part trois, Robert II le Pieux, Louis VI et Henri IV, vont être sacrés à Reims. Donc, c'est vraiment une cérémonie constitutive, je dirais, de la politique, du régime, de l'ancien régime français.
Si le sacre des rois de France a lieu à Reims, il faut peut-être rappeler d'un mot que c'est parce que c'était une commémoration du premier des sacres, c'est-à-dire le baptême
voilà,
de Clovis. Voilà,
qui n'était pas un sacre, simplement un baptême, effectivement, en 496 ou 499, on n'est pas tout
pas,
à fait
oui.
sûr. À Noël, Clovis avait été donc baptisé, était entré... Dans l'Église catholique et donc avait en quelque sorte baptisé la France. Donc on commémorait à travers le sacre cette entrée de la France, cette entrée de la monarchie française dans l'Église catholique.
Alors,
ça a un aspect d'ailleurs religieux. Il faut voir que c'est un sacre qui s'inscrit aussi dans la continuité des sacres de l'Ancien Testament, des rois d'Israël.
Qui s'inscrit surtout dans cette continuité même. Hein, c'est fondamental, cette dimension religieuse. Puisque
absolument.
À la mort même du roi, généralement c'est le premier gentilhomme de la chambre qui apparaît avec un plumet noir, qui dit le roi Louis XIII est mort, et puis on met le plumet blanc, vive le roi Louis XIV. Il y a cette continuité et à la minute même où meurt le roi, son fils ou son successeur est désigné.
Oui.
Il règne, mais il n'est pas encore sacré.
Voilà, le sacre au départ fait le roi jusqu'au milieu du Moyen-Âge. Pour être vraiment roi, il faut avoir reçu l'onction du sacre.
Et d'ailleurs,
parce que cette onction est sainte et elle est même miraculeuse, puisqu'il y a cette fameuse sainte ampoule dont on parlait tout à l'heure. D'une sorte d'huile sacrée qui aurait été apportée par une colombe du Saint-Esprit pour le baptême de Clovis. Donc il y a vraiment un aspect sacré. À partir du milieu du Moyen-Âge, je dirais surtout apparaît la guerre de Cent Ans, on peut penser que c'est le sacre de Charles VII, qui est d'ailleurs organisé par Jeanne d'Arc, qui est le dernier sacre un peu
à l'ancienne,
puisqu'elle considère qu'il ne devient roi qu'à partir du moment où il reçoit l'onction du sacre. Après, effectivement, le roi devient roi dès la mort de son prédécesseur.
Il y a une dimension du sacre qu'on a eu tendance à oublier avec le temps et avec les siècles, c'est qu'au départ, le roi faisait de son vivant et sous ses propres yeux sacrer son successeur. Il y avait une sorte d'assurance vie, si je puis dire. Ça va disparaître aux alentours à partir de Philippe Auguste,
c'est ça. Les premiers Capétiens, effectivement, Hugues Capet, on se rappelle, a été élu par les
barons,
les grands barons, et donc il a pris la précaution effectivement de faire sacrer son vivant son fils Robert le Pieux, qui lui-même a fait sacrer son fils Henri Ier, etc., jusqu'à Philippe Auguste. À partir de Philippe Auguste, on a l'impression que la monarchie capétienne, la dynastie, est suffisamment bien ancrée pour ne plus avoir besoin de cette précaution. Mais tout de même, le sacre continue à perpétuer, au moins dans sa forme, dans son symbole, l'élection. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure des acclamations populaires qui arrivaient à la fin du sacre. Eh bien, ces acclamations populaires sont un petit peu un reste de l'élection que l'on faisait du roi. Le roi devait quand même non seulement être le fils du précédent ou l'héritier du précédent, mais aussi avoir reçu l'approbation, je dirais, des Français pour pouvoir devenir roi.
Philippe Royer, est-ce que lorsqu'on est à Reims aujourd'hui, dans cette cathédrale extraordinaire, dans ce palais du Thau, qui est le palais de l'archevêché, est-ce que le souvenir de ces 33 sacres est encore présent ?
À l'intérieur de la cathédrale, peu. En revanche, au palais du Thau, beaucoup, puisqu'on est dans les lieux mêmes où les couronnements, le roi attendait, le futur roi attendait, passait la nuit dans la chapelle.
On recevait par la suite.
Il y a la salle du festin. Donc on sent bien, en tout cas dans ce palais, toute cette ambiance, cette atmosphère extraordinaire qu'il devait y avoir à l'époque.
Mais alors au moment du sacre de Charles X dont je parlais tout à l'heure, on avait perdu un certain nombre des grands attributs du sacre. Évidemment, les régalias, comme on dit, avaient été un peu dispersés, c'est le moins qu'on puisse dire, par la Révolution. Ce qui compte le plus, c'est la fameuse Sainte Ampoule, n'est-ce pas ?
Alors effectivement, pendant la Révolution, elle a été brisée et il y a un petit bout qui a été récupéré et un orfèvre parisien qui a d'ailleurs conçu la plupart des pièces d'orfèvrerie du sacre de Charles X a conçu un reliquaire. Et donc on voit aujourd'hui une Sainte Ampoule reconstituée. Ce n'est pas la vraie Sainte Ampoule, mais c'est une Sainte Ampoule.
Alors cette Sainte Ampoule, Philippe Delorme, elle était censée contenir ce qu'on appelle le Saint-Crème. De quoi s'agit-il ?
Voilà, alors donc la légende remonte en fait au IXe siècle. L'archevêque Ingmar, donc au moment du sacre de Charles le Chauve, dit que selon la tradition, une ampoule sainte et miraculeuse aurait été apportée par une colombe au moment du baptême de Clovis. Alors là, l'histoire n'apparaît qu'au IXe siècle. Toujours est-il que cette ampoule va passer les siècles et qu'à l'intérieur, il y a effectivement une sorte de, non plus de liquide, parce qu'avec le temps, c'est devenu une sorte de solide, sorte de pâte rougeâtre que l'on prenait de manière très homéopathique, je dirais, avec une aiguille d'or. On prenait une parcelle de cette pâte rougeâtre que l'on mélangeait avec du Saint-Crème.
Cette matière infiniment sainte, on
voilà,
va dire.
Que l'on mélangeait avec l'huile du crème habituelle, comme pour les confirmations, et donc ensuite on oignait le roi
en plusieurs endroits,
un peu comme un évêque, c'est-à-dire au sommet du crâne, entre les épaules, dans les mains, etc., ce qui faisait que le roi devenait en quelque sorte un personnage pratiquement ecclésiastique, une sorte d'évêque laïque en quelque sorte, et ce qui explique d'ailleurs que lorsque l'on il y avait attentat, lorsqu'il y avait régicide, c'était vraiment un sacrilège. Et l'auteur du régicide subissait un tourment particulièrement grave,
accartèlement,
etc., parce que il avait commis une sorte de blasphème et qu'il avait touché à loin du Seigneur, à quelqu'un qui était le lieutenant de Dieu sur terre, par cette onction.
Alors, qui procède au sacre ? Nous avons tous vu des images de couronnements modernes, et notamment du sacre de la reine Élisabeth II.
Oui, c'est assez proche.
C'est relativement proche. Oui. On a l'impression qu'il y avait un peu plus de monde, si, en tout cas, on lit les descriptions.
Autour du roi, alors,
en France.
Comme vous disiez tout à l'heure, les choses ont un peu évolué, mais à partir du XIIIe siècle, on a 12 pairs, donc on a 6 pairs
ecclésiastiques.
PARS, c'est-à-dire des égaux du roi, en quelque sorte, des grands barons. Donc il y a 6 pairs ecclésiastiques qui sont l'archevêque de Reims, les 4 suffragants, donc les 4 évêques de sa région, plus l'évêque de Langres. Ça, c'est les pairs ecclésiastiques. Et il y a 6 pairs laïcs, donc le duc de Bourgogne, le duc de Normandie, le duc d'Aquitaine, etc., qui, au cours des siècles, vont d'ailleurs être...
Et qui représentent un peu comme l'assemblée des provinces du royaume.
Voilà,
c'est ça l'idée.
Qui représentent même, d'une certaine manière, le peuple de France.
C'est ça,
puisque
voilà,
les hauts représentants, je dirais, du peuple de France. Et donc, on a cette idée d'élection. C'est-à-dire que le roi, comme pour Hugues Capet, finalement, devient roi parce qu'il est le fils du prédécesseur, mais aussi parce qu'il reçoit à chaque fois cette infusion de la volonté populaire.
Le roi prête des serments, et d'ailleurs on sait qu'un certain nombre de souverains ont été marqués dans l'exercice du pouvoir pendant tout le cours de leur règne par les serments qui ont été prêtés.
Par exemple, hein. Très croyant. Et donc, alors dans ce serment, et bien sûr, il y a l'idée de préserver les privilèges de l'Église. Hein, l'Église se sert la première, de respecter la justice, l'équité, de rendre le droit, le bon droit au peuple, etc. Et puis, il y a cette idée d'exterminer, alors ça c'est en latin, exterminer les hérétiques. Alors en latin, exterminer, ça veut dire jeter hors des frontières, bannir. Bon, ce qui est déjà pas tout à fait,
c'est pas détruire,
voilà, c'est pas tout à fait sympathique déjà, mais en tout cas, ça ne correspond pas à une extermination comme
physique comme
on le dirait aujourd'hui. Et d'ailleurs, lorsque Henri IV va faire ce serment, puisque il est sacré, non pas lui à Reims, mais à Chartres, bien, il va être parjure, puisque quelques années après, il va signer l'édit de Nantes qui permettra aux hérétiques protestants de vivre en France.
Est-ce que les reines étaient sacrées?
Parfois, certaines reines, la dernière était Marie de Médicis, mais elle n'était pas sacrée.
L'avant-veille de la mort de...
Voilà, et à Saint-Denis, donc non point à Reims. Mais ça se perd avec les Bourbons. C'est vrai que les reines Bourbons perdent beaucoup de leur rôle et donc ne vont plus être sacrées avec le roi.
Bonjour, nous dit Muriel. Je croyais que Charlemagne avait été couronné à Rome en 800 par le pape. Mais oui, parfaitement, Muriel. Celui dont nous parlions tout à l'heure, c'était son successeur, Louis le Pieux.
Ce week-end, ce sont les Journées du patrimoine. Cette année encore, Europe 1 est partenaire et ouvrira ses portes samedi et dimanche. Et vous donnez rendez-vous, bien évidemment, Franck, à nos auditeurs.
Et oui, nous accueillerons les invités, les auditeurs qui sont nos invités, permanents, samedi et dimanche, bien entendu. Et j'espère que nos auditeurs profiteront de l'occasion pour aller visiter un certain nombre de lieux, alors célèbres comme cette maison, mais beaucoup moins célèbres aussi. C'est le moment de faire vivre votre patrimoine, votre petit patrimoine de proximité, si je puis dire. Et en couverture du magazine Pèlerin cette semaine, on nous propose 40 sites insolites, ludiques, historique à l'occasion justement de ces journées du patrimoine. Il y a un site qui n'a plus besoin d'être défendu, c'est la cathédrale de Reims, bien entendu un des hauts lieux, un des plus grands lieux du pays, Philippe Royer, qui a subi mauvaise fortune, on l'oublie parfois, au moment de l'invasion allemande de 1914. C'était le 19 septembre 1914, il va y avoir très bientôt, dans deux jours, il y aura 100 ans, et les bombes allemandes tombaient... effondrait la cathédrale.
Oui, tout à fait, puisque pour vous rappeler rapidement et succinctement la chronologie des événements, l'avancée allemande est tellement fulgurante que le 4 septembre, les Français abandonnent Reims, se replient, les Allemands rentrent dans Reims, occupent la ville, transforment la cathédrale en hôpital précaire. Bataille de la Marne, contre-offensive, les Allemands quittent Reims dans la nuit du 12 au 13 septembre, occupent les forts tout autour de Reims, qui étaient vacants, si on peut dire, et les Français s'installent à nouveau à Reims et commencent une bataille d'artillerie depuis leur position. Les artilleurs allemands pilonnent Reims. Et le 19 septembre, pilonne la cathédrale. Alors, la chronologie est très simple, ça démarre dès le matin. Hein, on a des témoignages effectivement d'obus qui tombent sur le parvis. Sur les coups de 15 heures, un échafaudage était resté devant la tour nord de la cathédrale, puisqu'elle venait d'être restaurée au bout de plusieurs années, ce qui était quand même... incroyable, elle était comme neuve, si on peut dire, et soudainement, un obus embrase l'échafaudage en bois, des bombes incendiaires tombent sur la toiture, qui commence à partir en flammes, enfin... C'est une apocalypse qui commence.
Ah oui, on a des clichés célèbres, bien entendu, de cette cathédrale effondrée, abîmée, brûlée. Ça a été un travail considérable de la reconstruire après la guerre. Il faut d'ailleurs souligner le rôle là de, notamment, entre autres, hein, mais enfin, il a joué un rôle très important, de Rockefeller Junior, le fils de Rockefeller.
Grâce à sa fondation, qui a quand même apporté 25% du montant total de la restauration, on a pu venir à bout assez vite, on peut dire, puisqu'elle a été rendue au culte en 1938.
Oui, voilà.
Alors que s'il n'y avait pas eu cet apport de la Fondation Rockefeller, on peut imaginer que dans les années 50, elle serait à peine terminée.
Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on est bien sûr dans un moment où la République est triomphante, hein, lors de la Première Guerre mondiale, sans doute le sommet, l'apogée de la Troisième République, avec notamment un certain nombre de ministres et de très hauts personnages parfaitement anticléricaux, anti-monarchistes, etc. Et pourtant, tout le monde va prendre fait et cause pour cette cathédrale comme si elle était à elle seule le symbole de la France, justement.
Tout à fait. On a même parlé de cathédrale martyre parce qu'elle incarne, ouvrons beaucoup de guillemets, la barbarie allemande, qui ont osé pilonner le symbole de la royauté, la cathédrale du sacre. C'était quelque chose, ça a fait le tour du monde, cette affaire. Hein. Ça a été diffusé en carte postale. Il y a eu des visites régulières de personnalités étrangères qui sont venues voir les ruines. Enfin, c'est devenu vraiment un symbole inouï de la barbarie.
Oui. Et cette barbarie, elle va se prolonger, si je puis dire, puisque pendant tout le cours de la guerre, jusqu'en 1918, on verra encore des obus tomber, 400 en tout.
400
obus. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'il restait de la cathédrale de Reims en 1918?
La structure qui a très bien tenu, en fait. Effectivement, les tours n'ont pas été démolies. Il y a un petit bout de tour qu'on voit disparu sur les photographies d'époque. Mais la structure a tenu de telle sorte que les visiteurs qui pensaient la trouver en ruine arrivaient devant une cathédrale dont tous les murs étaient encore debout et se demandaient vraiment si la cathédrale avait été touchée. C'est en approchant, en arrivant vers le porche et en rentrant surtout à l'intérieur de la cathédrale, puisqu'il n'y avait plus rien, que les visiteurs s'apercevaient qu'effectivement la cathédrale avait purement et simplement, tout l'intérieur avait disparu.
Il y a un homme dont il faut citer le nom, c'est celui qui va présider aux travaux de reconstruction de la cathédrale.
Oui, Henri Deneux.
Henri Deneux.
Un Rémois qui est un architecte et qui, dès 1915, mobilise une petite équipe. D'abord, il est nommé architecte de la cathédrale, très officiellement. Il a un petit commando de quelques personnes qui récupèrent les bouts de vitraux qui tombent sur le sol au fur et à mesure des bombardements, qui installent des sacs de sable, et Dieu sait si c'était difficile d'avoir des sacs de sable à cette époque, parce qu'il y avait une véritable pénurie, qui mettent de côté les statues et les protègent, et c'est vraiment l'artisan de la reconstruction de la cathédrale. Alors, ce qui va l'intéresser, lui, c'est surtout les murs et la toiture. C'est-à-dire qu'il est convenu, au sortir de la guerre, qu'on ne refera pas les statues pour garder les stigmates de cette guerre. On ne refera que les murs.
Oui. Une partie du décor a été remaniée néanmoins, a été restaurée. Mais en tout cas, on n'a pas reconstruit ce qui avait été détruit.
Une partie du décor a été reconstruite bien après. Bien après.
Ouais,
c'est-à-dire qu'au départ, il y avait vraiment un cahier des charges qui voulait qu'on puisse toujours voir sur les murs de la cathédrale. D'ailleurs, on voit toujours, il y a des parties qui n'ont jamais été refaites.
On
a fait exprès de
garder
cela.
Il faut imaginer ce que c'était pour ce monsieur Deneux que s'attaquer à un tel chantier. La cathédrale a fait environ 150 mètres de long, 115 mètres pour la nef, avec une largeur en extérieur sur les transepts qui va au-delà de 60 mètres, une hauteur des tours de 80 mètres, un clocher, le clocher à l'ange qui monte jusqu'à 87 mètres. La voûte elle-même culmine pas très loin de 40 mètres. Enfin, c'est gigantesque, bien entendu.
Oui, il a fallu reconstruire la voûte. Ce n'est pas l'incendie qui a détruit la voûte, c'est la pluie, le gel, c'est le temps qui a fait s'affaisser la voûte. Effectivement, il fallait la remonter et surtout faire une toiture qui puisse résister aux incendies. Et Henri Deneux a ce génie d'inventer une charpente en béton précontraint avec des petites fermes très minces qui se montent comme un mécano et qui effectivement ont toujours résisté. Elles sont toujours là.
Alors, question qui fâche, est-ce que les Allemands ont incendié volontairement la cathédrale après l'avoir détruite par cet envoi d'obus?
Alors, il y a deux écoles. Il y a effectivement des historiens qui pensent que la cathédrale était directement visée comme symbole de la royauté, comme symbole de la France. D'autres historiens qui pensent que il n'y avait pas une volonté de détruire la cathédrale et que des obus qui étaient sans doute destinés aux usines, aux manufactures alentours, parce que c'était effectivement, vous le disiez tout à l'heure, une ville assez ouvrière avec des manufactures de textiles, et que ces bombes seraient tombées sur la toiture sans forcément que cette toiture et la cathédrale soient visées. Le fait est que les témoignages, d'après les témoignages, dès que l'incendie a été visible de loin, les obus ont cessé de tomber, du moins sur la cathédrale.
Cathédrale de Reims, du martyr à la paix, c'est donc votre bel article, long article, Philippe Royer, dans Le Pèlerin cette semaine. La Fondation Pays de France, qui fait tant de bien au patrimoine à travers le pays, nous dit sur Facebook que la restauration des sculptures de la Grande Rosace, en cours, va nous permettre bientôt de redécouvrir David et Goliath. On revient peu à peu sur le grand décor de cette cathédrale.
Justement, c'est un peu le projet aujourd'hui qui se dessine même d'ailleurs depuis une dizaine d'années, puisque après cette période, ces décennies, on a décidé de laisser intacts les dommages de guerre, si on peut dire. Depuis que la cathédrale est devenue le symbole de la réconciliation franco-allemande, comme vous le savez, depuis 1962, sûr, cette fameuse rencontre et messe entre
De Gaulle et Adenauer,
les restaurateurs se disent qu'il faut rendre à nouveau la cathédrale lisible et effacer ces stigmates.
Il paraît que le général De Gaulle n'avait pas de monnaie pour la quête. C'est un petit souvenir que j'avais recueilli chez un de ses proches il y a quelques années. Puisqu'on en est au message Facebook, Julien, qui nous avait suggéré de faire une émission sur le sacre des rois de France, nous dit qu'il est cofondateur de l'association pour le retour à Saint-Denis de Charles X et des derniers Bourbons. Et vous êtes membre, vous, de cette association?
Oui, effectivement, vice-président. Et effectivement, je crois que vous nous avez apporté votre soutien, et c'est un projet effectivement de ramener...
Parce qu'il est où actuellement Charles X, il faut le dire aux auditeurs.
Les cendres de ce roi qui est mort en Slovénie, enfin actuellement en Slovénie, à Gorizia, près de Venise, et donc on aimerait que ces cendres rentrent à Saint-Denis.
Voilà, donc c'est un appel que vous lancez,
voilà,
Philippe Delorme.
Voilà, c'est un projet.
Merci beaucoup à tous les deux. Je signale que vous êtes en train d'écrire une biographie d'Anne de Kiev. Ça nous intéresse beaucoup. On a hâte de vous recevoir pour en parler.
Personnage très, très obscur du XIe siècle sur lequel il n'y a pas beaucoup à dire. Et tout de même, ça sera une biographie, je crois, intéressante.
Et puis alors, un livre sur lequel, j'imagine, va se jeter Philippe Royer. Les rois et princes en 1914. Ça, c'est en préparation. Ça sort très bientôt.
Voilà, ce sont des cartes postales.
Eh bien, vous viendrez nous en parler. Le numéro de Pèlerin, 40 sites insolites, ludiques et historique pour les journées du patrimoine, est en ce moment même en kiosque.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question posée par Ombline. Elle voudrait savoir si la robe de mariée a toujours été blanche.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Ombline. Elle nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Elle voudrait savoir si la robe de mariée a toujours été blanche.
Alors, vous savez que cette robe de mariée, elle a été blanche il y a vraiment très longtemps, notamment dans l'Antiquité romaine, hein, puisque les jeunes filles portent bien ce jour-là une robe blanche le jour de leur mariage. Sauf que, après, tout ça va changer, parce qu'au Moyen-Âge, le blanc, c'est essentiellement la couleur du deuil. Vous savez que les reines, les princesses portaient le grand deuil blanc, notamment. Et donc, on va se mettre à porter toutes sortes de couleurs le jour de son mariage. Alors tout le monde ne pouvait pas porter des robes de brocart doublées d'hermine, bien entendu. Dans les classes populaires, les robes étaient le plus souvent rouges. C'était la plus jolie teinture qu'on ait eue à l'époque. Hein. Ça s'explique par le fait que cette teinture de garance était de meilleure qualité, qu'elle résistait très bien à l'eau, à la lumière, et donc c'était ce qu'on avait de mieux dans la garde-robe, qu'on portait tout simplement le jour de son mariage. Il faut donc imaginer, pendant des générations et des générations, toutes les mariées en rouge et non pas en blanc. Alors, le blanc revient un petit peu à la Renaissance, mais surtout, il va revenir en force au XIXe siècle, quand on va sacraliser d'une certaine manière l'idée de virginité, de pureté dans le mariage, etc. Cette innocence, cette virginité de la mariée, alors là, devient fondamentale. Et à partir des années 1850-1860, on peut dire que toutes les mariées sont en blanc, sauf celles, évidemment, qui se remarient. Enfin, je n'entre pas dans certains détails un peu désagréables. Vous avez vu que depuis quelques années, on n'entre même plus dans ces détails-là. Je dis bien, toutes les mariées sont en blanc. Et je vous signale, parce que je ne l'ai pas suffisamment dit tout à l'heure, que l'exposition Sacres royaux de Louis XIII à Charles X se tient au Palais du Tau jusqu'au 2 novembre prochain. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck, vous dites virginité et j'apparais.
Et voilà, je n'ai pas osé le faire, mais puisqu'après tout vous décernez cela vous-même.
Alors cher Franck, aujourd'hui nous recevons Charlotte de Turckheim qui fourmille de projets. Elle est à la télévision, elle prépare un nouveau film, elle a une nouvelle silhouette. On va parler de tout ça de 3 à 4.
Quel beau programme, ça je suis ravi. Merci beaucoup Marion, nous nous retrouvons demain Céline.
Avec plaisir Franck, à demain.